je vous rappelle ce que nous avons fait et ce que nous continuons de faire. La métaphysique cherche les principes propres de ce qui est en tant qu'être. Rappelez-vous ça tout le temps. C'est-à-dire, vous vous remettez dans la lumière de la métaphysique, dans toute sa pureté. Ce qui est en tant qu'être. Tant que ça ne dit rien à votre intelligence, il faut chercher ce que ça veut dire. Parce que c'est vrai, on répète la formule et on ne voit pas ce que ça veut dire. Saisir l'être comme il est. Comme il est. Vous voyez, ce n'est pas une vision divine de l'être comme Dieu l'a, parce que Dieu connaît l'être en le créant. Autrement, il se connaît. Mais il connaît l'être en créant l'être, en créant des réalités extérieures à lui, autres que lui. Et nous essayons de comprendre ce qu'il y a de tout à fait propre à la réalité telle qu'elle est dans son existence. Et dans son existence, elle échappe à notre fatuité. Nous ne pouvons pas faire l'être. Nous le voudrions beaucoup, mais nous ne pouvons pas. C'est déjà beaucoup de connaître l'être en tant qu'être. C'est une connaissance. Les anciens disaient, pour Aristote, divine. C'est une connaissance qui dépasse notre manière habituelle de connaître. Notre manière habituelle de connaître, c'est ce que nous voyons dans les journaux. C'est-à-dire, on raconte ce qu'on voit. On fait des relations plus ou moins vraies. On raconte ce qu'on voit. Tandis que, en métaphysique, on ne raconte rien. L'imagination, se tait. Et elle n'est pas contente. Parce que, au fond, on la ramène à ce qu'elle est, l'imagination. L'imagination ne vous fait pas connaître l'être en tant qu'être. Elle vous fait connaître la divisibilité des choses, leur potentialité, comment ils peuvent s'étendre, comment ils peuvent rayonner, comment ils peuvent s'épanouir. Mais l'être, comme être, il échappe à l'imagination. Et c'est là où l'intelligence, comme intelligence, s'éveille. Tant que nous n'avons pas saisi ce qu'est la réalité en tant qu'être, notre intelligence ne s'est pas éveillée. On reste au mode humain, raisonnable, de l'intelligence. Une intelligence qui fabrique, une intelligence qui réalise, une intelligence qui est au service de l'amour. Saisit l'éveil de l'intelligence. Tandis que vous saisissez l'éveil de l'intelligence, dès que vous posez la question « qu'est-ce que c'est que l'être en tant qu'être ? Qu'est-ce qu'il est du point de vue de la causalité formelle ?» Puisque c'est la première causalité à laquelle la recherche métaphysique se heurte. Puisque rechercher ce qu'est l'être du point de vue matériel, ce n'est pas atteindre l'être en tant qu'être. L'être en tant qu'être n'est pas touché par la matière. L'être qui a ce mode matériel, l'être matériel, des réalités que j'expérimente ne me fait pas saisir l'être en tant qu'être. Donc la première chose que j'écarte dans ma recherche métaphysique, c'est la cause matérielle. La cause matérielle, elle est première génétiquement. Tous les êtres que je constate, que je touche, que je vois, sont dans le devenir. Et c'est dans le devenir que je saisis en premier lieu. Il a fallu assez longtemps pour que la philosophie dépasse ce regard commun d'identifier l'être et le devenir. Parce que je ne saisis l'être que dans le devenir, que par le devenir. Mais le devenir n'est pas l'être. Le devenir, c'est l'être qui devient, c'est l'être qui grandit, c'est l'être qui se manifeste. Or, je veux saisir l'être tel qu'il est en lui-même. Et je sais que ma première connaissance de la réalité, ma connaissance, j'allais dire, toute simple, humaine, c'est de connaître la réalité matérielle, physique, la réalité qui implique le mouvement. Le point de vue du mouvement, c'est une modalité particulière de l'être. Et c'est une modalité qui est très radicale. Parce que c'est la première chose que je connais. Je connais l'être par le mouvement. Et la première chose que je dois arriver à distinguer, c'est l'être du mouvement. Le mouvement existe. Ah, le mouvement existe. Le mouvement peut ne pas exister et être purement imaginatif. Le mouvement purement imaginatif, nous savons très bien ce que c'est, nos rêves. Et là, nous restons dans l'intentionnel. Tous les jours, nous faisons cette petite expérience très simple. Tous les jours, on se réveille. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On se réveille. Et si on avait un cauchemar qui nous tenait ferme, on se dit, ah, tout ça, c'est l'imagination. La réalité, c'est mon lit. C'est ce petit coin de terre où j'ai pu me reposer, me détendre. Et je me réveille. Voilà une nouvelle journée qui commence. Ma journée n'a pas commencé par mon rêve. Mais quelquefois, le rêve demeure. J'aime me m'habiller rapidement, je ne me réveille pas. Je reste dans le devenir. Et je vais, pour l'oraison, je reste dans le devenir. C'est beau, très beau. Je construis un petit monde idéal où personne ne m'embête. Parce que c'est pour ça qu'on aime bien de construire un monde idéal, pour avoir personne qui nous ennuie. On est seul. Mais on ne fait pas oraison. On reste éveillé dans son rêve. Et quelquefois, ça reste assez longtemps dans la matinée. Parce que c'est assez reposant. Personne ne m'ennuie. Je vis dans ma bulle. Puis, il y a un petit choc. Il y a une lettre qui arrive. Ah, tiens. Une autre planète qui vient me visiter. C'est un premier réveil. L'autre. Ou bien je peux me réveiller très vite, tout de suite. Je me réveille, je me mets à genoux, je prie. Il y a une relation spéciale qui se fait, qui dépasse tout. Et j'essaie de rester dans ce climat de prière. À ce moment-là, j'essaie de me réveiller vraiment. Je prie. La prière est un moyen merveilleux de se réveiller. C'est-à-dire de quitter l'imagination et d'entrer. Et alors, au-delà de la prière, il y a cette recherche de l'intelligence. Dans la réalité, j'essaie de saisir ce qui est. La première recherche, c'est la recherche de la détermination première de ce qui est en tant qu'être. La première détermination de ce qui est en tant qu'être. Et cette première détermination de ce qui est en tant qu'être, je l'appelle substance ou sia. Ce nom est ancien, c'est la philosophie grecque qui me l'a donné. Il n'y a pas de raison de changer. Que ça exprime quelque chose. Dépasser toutes les déterminations secondaires. Je suis arrivé à cette détermination fondamentale. Et je suis arrivé à cette détermination fondamentale parce que je vois, c'est-à-dire je comprends, je connais. Les réalités que j'expérimente, et la réalité principale que j'expérimente, c'est moi-même, c'est mon frère, c'est l'homme. Je vois qu'il y a deux déterminations, celle de la détermination formelle, c'est un homme, ce n'est pas un animal seulement, c'est un homme. Et l'autre détermination, c'est le sujet, la cause matérielle qui est capable de recevoir, qui est non déterminée et qui peut se déterminer de multiples manières. Je suis donc arrivé à ces deux premiers la substance quidité, la substance sujet. Je dirais que ça, je peux, par mode d'expérience, le toucher. Mon intelligence reste en contact direct avec ce qui est. Or, ce qui est, détermination première ne peut pas être double. La dualité demande d'être dépassée par le principe qui est un. Quelle est donc la première détermination de ce qui est en tant qu'être? Et cette première détermination étant aussi ce qui permet à ce qui est, quand il est matériel, d'être sujet. L'intelligence humaine ne peut pas se reposer sur la dualité. L'intelligence humaine cherche principe. Alors, chercher le principe, c'est chercher le premier. La dualité, très bien. La dualité, je la constate. Mais je ne peux pas demeurer dans cette dualité. Je cherche à saisir ce qu'il y a de premier, de plus radical. Et à partir de la substance quidité et à partir de la substance sujet, je peux saisir la substance en elle-même qui est dans l'ordre de l'être, ce qui est premier. Et ayant saisi cette substance comme principe, comme première, pour mieux la saisir, je saisis tous ses effets, tout ce qui provient d'elle. Elle est source, et donc je vois les qualités. Les qualités, c'est la manifestation des déterminations d'être. Ce n'est pas la substance. La substance ne se manifeste pas elle-même. Elle est principe. Et un principe ne se manifeste pas. Il est. Comment l'être est caché dans ce qu'il a de plus lui-même. il se découvre, je le découvre par mon intelligence, mais je ne peux pas le toucher. Je n'ai jamais touché la substance. Je n'ai jamais vu la substance. Mon intelligence a ceci de particulier, c'est qu'elle dépasse tout ce qui se manifeste. Et une intelligence qui reste dans ce qui se manifeste n'est pas l'intelligence. Elle est l'intelligence humaine. Et l'intelligence humaine, c'est une intelligence qui avance avec les sens, avec l'expérimentation, ou l'expérience plus exactement, l'expérience de tout ce que je vois, de tout ce que je sens, de tout ce que je tiens. C'est très important de faire cette distinction entre l'être qualitatif et ce qui est en tant qu'être. L'être qualitatif, c'est l'être qui se manifeste. L'être demande de se manifester, mais l'être comme être ne se manifeste pas. Il est substance. Découvre la différence entre la substance et la qualité. Et je vois que si la substance est unique, les qualités comme qualité, au point de vue de l'être, sont multiples. Il y a des qualités spirituelles, il y a des qualités sensibles. Et je ne dirais pas qu'il y a l'être spirituel et l'être sensible. L'être comme tel est substance. Et substance, c'est l'être. Ce n'est pas l'être spirituel qui dépasse l'être sensible, c'est l'être. L'être comme tel, il est. Et il se définit par lui-même. Rien n'est supérieur à l'être pour mon intelligence. Et quand l'intelligence découvre la substance, c'est l'être qui se donne à mon intelligence et qui se donne lui-même à mon intelligence. Et mon intelligence, en découvrant l'être, se détermine fondamentalement. Mais mon intelligence est déterminée par la substance. Ce n'est pas mon intelligence qui détermine la substance. Et mon intelligence, ayant découvert cette détermination fondamentale, découvre les manifestations de cette substance, les qualités, les quantités, l'être matériel se donne à travers la quantité, l'être spirituel se donne à travers les déterminations spirituelles, l'intelligence et la volonté. Mais la substance n'est ni l'intelligence, ni volonté. La substance est quelque chose de radical. De premier, c'est la détermination même de l'être. qu'il a de plus lui-même. L'être n'est pas la manifestation de l'être qualitative, n'est pas la manifestation quantitative de l'être, la divisibilité. L'être est aussi en relation avec autrui. L'être en lui-même, dans sa substance, est unique. Mais l'être, par les qualités, par les quantités, se manifeste, se communique à un autre. Et à côté de cet isolement de la substance, il y a l'être dans sa relation. C'est l'être saisi d'une façon ultime, un être relatif, c'est un être qui n'a plus assez de vigueur, assez d'être pour être seul. Je constate en effet qu'il y a, parmi les réalités que je connais, il y a au sommet la connaissance de la réalité qui est l'ami et connaître l'ami, c'est connaître l'autre. Et connaître l'autre, c'est connaître un être qui m'est relatif et auquel je suis relatif. Et grâce à la relation, je peux mieux connaître l'être. Je vois que l'être n'est pas immédiatement relatif. Alors que l'être est immédiatement substance. Et cela, c'est capital. De comprendre que l'être relatif, c'est second pour l'être. Ce n'est pas premier. L'être n'est pas premièrement relatif. L'être a besoin de la relation pour s'appuyer. Et c'est vrai, quand l'être vieillit, il s'appuie sur l'autre. Il a besoin de s'appuyer. Quand l'être est jeune, et c'est vrai, l'être humain a un âge, et il connaît la jeunesse et la vieillesse, deux extrêmes. Quand l'être développe sa jeunesse, il développe son indépendance. Et quand l'être vieillit, il développe sa dépendance. Et c'est curieux de voir que s'il y a d'extrême dans l'être, ce n'est pas sa détermination, c'est sa possibilité d'être relatif à un autre. Donc, on pourrait dire qu'il y a comme deux grandes déterminations dans l'être. Cette détermination fondamentale de la substance, où l'être montre son exigence d'unité, et l'éclatement de l'être. L'éclatement de l'être, c'est justement que l'être est capable d'être relatif à un autre. Il est capable de l'embrasser. C'est Sartre qui dit ça, hein, pour montrer cet éclatement. Et c'est assez joli, du reste, de voir que le besoin d'embrasser, c'est la relation. C'est le sourire de la relation. Il y a l'éclatement d'être relatif à l'autre. Voyez, l'être a la possibilité de se replier sur soi. Et l'être qui se replie sur soi, c'est l'être qui aime sa solitude. La substance est solitaire. Et l'être qui éclate, il éclate par la qualité, par la quantité. Grâce à la qualité, grâce à la quantité, l'être peut dépasser sa solitude substantielle et rejoindre l'autre. Rejoindre l'autre qualitativement et rejoindre l'autre qualitativement. C'est la relation d'amitié. Et c'est vrai, dans l'amitié, mon être est tout entier tourné vers l'autre. Et plus cette amitié grandit, plus elle fait que mon être est tout entier relatif à un autre. Être relatif à l'autre, c'est donc une très grande richesse, puisque ça me permet de quitter ma solitude par où j'existe seul. C'est très bien d'exister seul, mais quand on sait et quand on découvre ses limites, quand on découvre qu'on est un être parmi d'autres, qu'on n'est pas seul, on désire entrer en relation avec les autres. C'est très étonnant. Cette nécessité d'être relatif. Je crois que cette nécessité d'être relatif, nous la découvrons dans l'amitié. Nous découvrons dans l'amitié que être relatif à un autre, à une autre, à un autre être substantiel, je ne perds pas ma solitude en étant relatif à un autre être substantiel. Je perds ma solitude quand je me laisse aller à être relatif à des êtres qui ne sont pas substantiels. Mais quand je découvre un être substantiel, une personne, et que je découvre la possibilité d'être en relation avec cette personne, je découvre une très grande richesse. c'est beau de découvrir cette possibilité qu'il y a d'être deux en un. De dépasser l'isolement d'être deux, parce que cette première découverte de l'autre me fait découvrir ma solitude. Je découvre l'autre et je ne sais pas comment l'atteindre. Je ne sais pas comment pouvoir vraiment faire que cet autre devienne un. Il y a là une découverte qui est assez extraordinaire et qui est une découverte qui se fait à partir justement que mon être est capable de rencontrer un autre être. L'autre n'est pas seulement pour moi une limite qui montre que je suis dépendant, que je ne suis pas tout, qu'il y a un autre. Mais l'autre peut être aussi, pour moi, source d'un développement, d'un dépassement de ma solitude, de ma limite, et de découvrir qu'ensemble, à deux, on a une plus grande richesse. Puisque toute ma richesse peut être relative à l'autre, comme l'autre peut être relatif à moi. Il y a une possibilité de réaliser quelque chose de tout à fait nouveau, faire qu'on est deux et qu'on est un dans la recherche de la vérité, dans la recherche de l'amour. Et donc, une richesse nouvelle de l'être. Et je découvre aussi qu'à cause de la quantité, la quantité qui n'est pas premièrement une détermination de l'être, mais une possibilité pour mon être de m'agrandir. Cette possibilité est aussi source de ma connaissance, de ma limite. C'est extrêmement étonnant de voir comment la relation, l'être relatif, peut me faire découvrir une authentique richesse, une possibilité d'être à deux dans l'unité d'une recherche finale, mais qu'aussi cette découverte de l'autre, quand elle reste au niveau quantitatif, me montre mes limites. L'autre me montre mes limites. C'est pour ça que l'autre est quelquefois insupportable. Voyez les deux points de vue. La découverte de l'autre ami, la découverte de l'autre, je ne dis pas ennemi, mais de l'autre en tant qu'autre, qui me fait découvrir mes limites. Et ceci, c'est très important, parce que ça me montre que cette nouvelle découverte de l'être, qui est la relation, est au-dessus du bien et du mal. La relation n'est pas par elle-même bonne. La relation n'est pas par elle-même mauvaise. Elle est neutre. J'en fais ce que je désire. Je peux me servir de la relation pour aimer et donc m'épanouir. Je peux me servir de la relation pour voir mes limites et sentir mes limites. L'autre m'apparaît comme ayant des richesses que je n'ai pas. C'est, je crois, la découverte double de la relation. Une relation qualitative, une relation quantitative. Ah, c'est curieux, ça. C'est justement la relation est un être tellement ultime qu'il dépend d'un fondement qui est ou la qualité ou la quantité. Quand ce fondement est qualitatif, j'ai la possibilité de me servir de la relation pour me perfectionner, pour aller jusqu'au bout de ma fin. Quand le fondement de ma relation est quantitatif, la relation m'aide à comprendre mes limites. Il y a donc cette découverte ultime de la détermination de l'être. L'être demande parce qu'il est limité d'être relatif. Et je ne peux pas séparer de mon être substantiel la relation. La relation fait partie de l'extension de mon être. Grâce à la relation, j'entre en contact amical avec une autre personne. À cause de la relation, je découvre davantage mes limites. La relation, donc, par elle-même, n'est pas ce qui vient me perfectionner, elle est celle qui me permet d'atteindre l'autre et de l'aimer. Elle est celle qui me permet de m'enfermer sur moi, sur mes limites, en voyant l'autre comme celui qui me fait mieux comprendre mes limites. La relation, elle est donc neutre. Je suis en face d'un être relatif qui est mien et qui en lui-même est neutre. Pourquoi est-il neutre? Et comment est-il neutre? C'est ce que nous verrons la fois prochaine.